D'autres manques avaient Turlupine et Fabrice, mais sans l'angoisser. Curieusement, c'était les plus inquiétants puisqu'ils touchaient à la santé. Mais ils se désintéressaient de ce qu'ils faisaient souffrir. Les détails de sa légendaire mort orale lui étaient restés inconnus. Il se contentait de savoir qu'il n'avait pas été victime d'un empoisonnement ordinaire, mais ignorait si son coma avait duré 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Toute son adolescence fut perturbée par ce mal qui ralentit sa croissance et en fit un souffre-douleur dans les cours de récré. Mais il vivait ça avec fatalisme, trouvait chic d'être chétif, un peu délicat, un peu frêle, petit et de surcroît asthmatique, avec son lot d'étouffement. Cela lui valait d'être dispensé de gymnastique à l'école et de tout effort à la maison. D'une façon générale, tout effort lui était proscrit. Les seuls qui lui étaient permis dans son quartier de la rive gauche, c'était de monter sur les chevaux de bois du jardin du Luxembourg pour s'y adonner au jeu, consistant à faire entrer le manège tournant une baguette de bois dans un collier d'acier suspendu. Après avoir découvert la recherche, il remarqua qu'il avait des points communs avec l'auteur, sans en tirer quelque rapprochement que ce fût nécessairement abusif et arbitraire, puisqu'il avait ignoré tout de cet écrivain jusqu'à ses 60 ans. Ils avaient en commun l'hypersensibilité, l'asthme, le rhume des foins, les séjours en Normandie, mais pour lui, Fabrice était dans une colonie de vacances à Houlgat, les cauchemars d'enfants. Et au Luxembourg, quand il se souvenir, il y avait aussi une voiture aux chèvres, comme sur la rive droite, aux Champs-Élysées du Hérault. Et ce moustachu avait encore la même façon que Proust de poser le pouce, soutenant le menton, l'auriculaire et l'annulaire sous la lèvre, l'index et le majeur dressés le long de sa joue. Comme il était gaucher, ce dont il tirait sottement une grande fierté, puisqu'il n'y était pour rien, et ce qui le faisait écrire comme un cochon, tout se liguait pour qu'il fût surprotégé. Alors, dans cette continuité, avec son premier salaire, il acheta des lunettes. Pas des lunettes de soleil pour le confort et le paraître, de vraies lunettes d'opticien obtenues avec l'ordonnance de l'oculiste qu'il était allé consulter. Il ne souffrait d'aucun réel défaut à ses yeux bleus et sa démarche était préventive. En fait, il craignait déjà de manquer d'acuité visuelle et se prémunissait contre cette infirmité. L'ophtalmologue ne s'était pas fait prier, car on peut toujours trouver un dixième manquant à un œil. Dans son cas, c'était le gauche. De toute sa vie, qu'il traversa sans plus de maladie qu'un autre. Il endura les douleurs qu'elle provoquait sans chercher à les réduire. Il expiait, fataliste, ce qui n'exigeait aucune rédemption. Dans ses lectures, un auteur, un seul, lui demeurerait à jamais étranger et parce qu'il l'avait décidé, Céline. Ce fut même une révélation pour lui qu'il transforma en consolation. Quand il regardait les devantures de librairies ou déambulait dans les bibliothèques dont il aimait le silence, il éprouvait un réel malaise à l'idée de ces millions de pages, de milliards de mots qui lui seraient à jamais inconnus. Il savait, certes, que de même, il n'escaladerait jamais l'Everest, ne sillonnerait pas davantage les océans et que le continent lui serait pour toujours étranger. Mais il n'en gardait pas moins une amère insatisfaction. Céline seule relevait d'un choix. Il avait beau avoir entendu répéter que son écriture était unique. Il faisait un blocage sur son racisme et... un jour, il se fit une raison en se disant « Peut-on vivre sans l'avoir lu ?» Entre l'intérêt et la détestation, je tranche, je peux vivre sans. Et c'est à cet instant qu'il en fut soulagé. et bien plus tard. Lisant le chapitre des lieux de mémoire d'Antoine Compagnon consacré à la recherche, il apprit, conforté, la haine vulgaire de Céline pour Proust. Céline disait, 300 pages pour faire comprendre que tutu rencule ta table, c'est trop. Et Fabrice sourit accablé en apprenant également que Sartre voyait en Proust le complice de la propagande bourgeoise. Et qu'Aragon entendait s'acharner sur un mort. Il revint au passage à Fabrice une des raisons pour lesquelles il était devenu franc-maçon, une institution condamnée par l'Église et par le parti ne peut être négligée. Côté vie professionnelle, Fabrice connaissait la réussite, même si les circonstances décidaient sans lui de sa carrière. Il ne se sentait maître de rien, mais se gardait bien de s'en désoler puisqu'elle était ascendante. Il était d'une génération où l'on entre dans une entreprise pour y passer le reste de ses jours. Il avait été conduit sans le décider, lui, à en changer. On venait même le chercher. C'était flatteur. Mais il ne doutait pas d'être plus qu'un imposteur, un usurpateur. Heureux dans un poste, il était débauché par la concurrence, se laissait attirer, mais pensait que d'autres, mieux que lui, avaient le bon profil, des capacités supérieures, un talent plus efficace. Qui le démasquerait ? Comme le criminel qui a réussi le crime parfait, tout en sachant qu'il n'existe pas, à la certitude qu'un jour la police viendra le cueillir. Il menait une vie enviée, mais pensait-il fragile. Dans cette attente, se différenciant de ses confrères, il jugeait plaisant et de plus d'intérêt de raconter ses ratages plutôt que ses succès et ses échecs plutôt que ses faits d'armes.